chères auditrices et auditeurs du Café Radio Culture de la SFIC. C'est dans un décor atypique que nous débutons cette émission pour les 13e doctorales de la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication. Et c'est sous des airs de cathédrale que nous nous retrouvons en cette matinée du 12 juin 2019 à Mulhouse pour 3 jours de conférences, d'échanges, de débats et de rencontres. L'Université de Haute-Alsace nous accueille dans sa grande structure de la Fonderie. Au cœur d'une architecture unique, la Fonderie est un espace qui symbolise la vision du passé vers le futur. L'université est finalement témoin de la mémoire industrielle mulhousienne. Avec un bâtiment métallique qui abrite à la fois 6 facultés en sciences humaines et sociales, un centre de recherche pluridisciplinaire, une bibliothèque médiathèque et le centre d'art contemporain La Kunsthalle. Centre d'art qui dépeint une réhabilitation réussie du patrimoine industriel de la région. Tout au long de ces journées, nous avons cherché à recueillir les avis et expériences d'enseignants-chercheurs, de doctorants et d'artistes afin de réfléchir sur l'ouverture d'un volet culturel lors du prochain congrès scientifique de la discipline. Voyageant entre information et communication, nous nous sommes questionnés avec David Galli sur le rapport entre art, culture et communication.
Et qui sont-ils, ces doctorants qui préparent une thèse, un doctorat, une recherche qui les amène à questionner l'humain, les individus, la société? Quittant leur bibliothèque quelques instants, les doctorants glissent sur le terrain des rencontres. Quel est leur rapport à la culture, aux arts? Que font-ils d'une émotion qui s'échappe d'une expérience en modifiant leur histoire? Pendant 3 jours, nous avons été en quête de la parole de doctorants, adeptes des questions de communication. Comment ont-ils vécu la rencontre singulière avec le spectacle vivant? Et surtout, l'artiste, cet artiste qui est lui-même tantôt un objet de recherche, tantôt un chercheur, pas comme les autres. Nous sommes aussi allés les questionner, ces artistes qui interviennent dans un événement scientifique, à la demande des administrateurs de la SFIC. La SFIC, c'est la société savante qui rassemble entre autres des professeurs et maîtres de conférences qui ont choisi le développement d'un volet culturel. Pourquoi et comment? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Bilal Haroufoun et nos invités en studio, dans la rue et jusqu'en Suisse.
Café Radio Culture, au cœur de Mulhouse, les 12, 13 et 14 juin 2019.
Et c'est plutôt remarquable de commencer une programmation artistique avec la question de la boucle. L'inattendu surgit de la boucle sonore en faisant apparaître une mélodie, ou peut-être davantage. En tout cas, c'est le jeu du sampling, une nouvelle sorte de boucle étrange dont nous parle cet artiste DJ qui a ouvert le bal le mardi soir.
Et il y a plein de morceaux qui font référence dans le sampling, surtout dans le hip-hop. Je vais juste vous montrer deux, trois exemples. Donc ça, par exemple, ce morceau-là, vous allez tous le reconnaître. Je sais pas si ça vous parle, c'est assez récent. Ça dit quelque chose ou pas? C'est assez récent, c'est un Canadien, un rappeur qui a bien téléphoné. Hotline Bling de Drake, mais en fait ça c'est l'original, Timmy Thomas en 1972. Le morceau que Drake a utilisé c'est celui-là. Ça vous parle quand même, non?
Oui, ça oui.
Et en fait ça, ce qui a été fait, bah, c'est ce qu'on appelle du sampling. Donc ils ont été chercher des morceaux soit de jazz, soit de funk, etc. Et ils les ont mis en boucle, ils ont rajouté une batterie, une voix, etc., etc. Il y a Daft Punk aussi qui a fait énormément de choses comme ça. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de sampler, puis on va le faire un peu tous ensemble, et on va démarrer avec un petit rythme brésilien.
Donc moi, c'est Zadjaza. Je suis DJ, producteur, et en ce moment je développe un concept vidéo et d'atelier qui s'appelle Sampling is Beautiful, dans lequel j'essaye d'expliquer un peu ce que c'est le sampling, de faire participer les gens au sampling. Et je fais ça aussi assez régulièrement pour des festivals où je sample la programmation de festivals pour présenter la programmation et aussi pour s'amuser avec, les samples des artistes qui y jouent, quoi.
Mais alors, vous parlez de samples. Qu'est-ce qu'on entend par là ? De l'échantillonnage ? La recherche d'un nouveau motif musical ? La reproduction d'un ancien morceau de musique ? Ou peut-être simplement du mixage ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par sampling ?
Le sampling, en fait, c'est en français, c'est l'échantillonnage. C'est prendre une petite partie d'un enregistrement, le manipuler, le triturer, lui faire des effets, le mettre à l'envers, le mettre en boucle, etc. Donc le sampling, ça englobe un peu tout ça. C'est le fait de prendre un enregistrement déjà fait, ou alors qu'on est en train de faire, et de le manipuler cet enregistrement. Donc après, on en fait ce qu'on en veut.
En recherche, on peut l'aborder par la question de la boucle, de la répétition. Aujourd'hui, on cherche de plus en plus à créer comme une boucle entre soi et la machine. Vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec des chercheurs et de croiser les approches sur ces questions, ces concepts ?
C'est la première fois, parce qu'en fait, j'ai déjà fait ça, mais j'ai déjà fait ça pour un conservatoire, j'ai déjà fait ça en école de musique ou en salle de concert, mais jamais face à un public de chercheurs. Mais après, je connais pas mal de chercheurs et on a beaucoup de points communs. C'est justement là, un peu dans la recherche fondamentale, c'est de trouver, pour nous, ça va être de trouver un grain de son qui va être très très particulier. Donc ça va être des heures et des heures de recherche. Pour les DJ, ça va être la recherche de la petite perle rare que l'autre DJ n'a pas. Donc il y a quand même beaucoup de similitudes aussi dans la patience.
Alors comment pourrait-on développer ce premier travail que vous avez engagé avec des chercheurs ? Si vous deviez revenir nous voir, vers quoi pourrions-nous avancer ? Vous nous avez permis de faire surgir des mots, des expressions, finalement des significations qui traversent les travaux de chercheurs, non ?
Après, ça pourrait être avec un travail en amont, ça pourrait être le petit jeu qu'on a fait avec les mots-clés. On pourrait peut-être construire des phrases avec... Ça se prépare un petit peu en amont, c'est très dur à faire en impro. Mais de préparer des phrases et de les faire soit s'enchaîner, soit l'une après l'autre, soit... Je sais pas, ça peut être une idée sur les idées qu'on peut faire. Et puis après, ça peut être dans la recherche sonore aussi, avec un micro, divers percussions ou des éléments de travail. Là, on aurait pu utiliser les fers, les verres, faire du son avec. Vraiment dans le concept de l'enregistrement et du sampling, quoi.
Ce qui est souvent intéressant, c'est la genèse des projets, leur émergence. Ici, l'idée d'une programmation culturelle vient d'un groupe de chercheurs, mais l'initiative est portée par Émilie Bouyagué, à qui l'on a demandé de faire le récit de la vie du projet.
L'idée, elle est née en 2016 au congrès de la SFIC, qui s'est déroulé à Metz. Et on était en sortie de journée de conférence, je crois que c'était une des premières journées... Et on s'est tous retrouvés avec les collègues, des doctorants, des étudiants, dans un espace informel qui était un bar avec un petit peu de musique. Et on a échangé avec mes collègues qui s'appelle Cyril Maslow sur cette folle idée d'avoir éventuellement un jour un festival des sciences infocom qui puisse permettre ce genre d'espace informel, qui puisse se greffer à des congrès pour justement... créer des espaces informels où des artistes soient là, où il y a de l'artistique, de la musique, et où en fait on se rend compte que les gens, les participants, les congressistes se retrouvent, continuent leur journée, mais moins pour dire ce qu'ils font que pour se présenter dans ce qu'ils sont, dans leur propre parcours personnel. Donc on est tous au même niveau, voilà, il y a un moment où on est tous au même endroit, profitant de ce qu'est l'autre et non pas d'où il vient, de ce qu'il fait, à quelle université il est rattaché, à quel labo, etc. On est vraiment dans une discussion, dans de la rencontre humaine en fait. Et puis ensuite, c'est pour le congrès suivant, congrès de la SFIC, qu'on a décidé à l'occasion de ce congrès-là de monter un atelier sur inscription, donc vraiment des personnes qui étaient là, doctorants, jeunes docteurs, maîtres de conférences, professeurs, etc. Comme vous, je veux dire, le Café Radio culturel, c'était aussi une proposition au sortir de cet atelier de lancement en disant nous on a ça nous parle, on a envie éventuellement d'être bénévole, de faire des choses pour ce projet, de l'accompagner dans nos domaines de compétences. Je suis rassurée parce qu'il y a de la confiance derrière qui m'a été donnée. La confiance d'un conseil d'administration qui représente une société savante. J'ai entendu des réactions, j'ai vu de la participation, j'ai vu des sourires, j'ai vu de la surprise, de l'étonnement et évidemment beaucoup de confiance aussi en disant c'était super.
Émilie Bouillaguet a été soutenue par son conseil d'administration et notamment par le président de la Société française des sciences de l'information et de la communication, Philippe Bonfils, que nous avons interrogé le dernier jour à Bâle, après qu'il ait pu vivre le programme culturel.
Alors on avait une idée que je trouvais très séduisante, c'était de travailler sur une logique un peu de rap, c'est-à-dire de mettre en rythme, de mettre en musique certains travaux, certaines notions, essayer de les détourner, essayer de les re-questionner sous une forme artistique. Voilà, je pense que c'est une piste sans doute qu'on va essayer d'explorer. Là, on a aussi vécu des moments comme ça d'animation de la rue à la Fonderie, le lieu s'y prêtait. C'était une bonne prise de contact pour tout le monde. Ça a été un spectacle de rue à l'extérieur devant la Fonderie, avec une participation très croisée. Le monde académique a rencontré la rue aussi. Il y avait des enfants, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout de notre univers, puis les artistes. Et puis il y avait ce moment de convivialité hier soir au restaurant où ces artistes se sont mêlés aux anciens chercheurs. Et c'était aussi très, très intéressant.
Revenons maintenant aux doctorants que l'on a largement sollicités pendant ces journées pour leur demander d'agrémenter, de compléter, voire de transformer cette première édition d'un volet culturel d'un colloque scientifique tel que les doctorales de la SFIC. Et voici donc les idées de Julie Goliot, autre doctorante que l'on a interrogée lors de la dernière journée.
La partie culturelle avait vraiment été très appréciable. C'est vrai que le spectacle de rue hier était vraiment très sympa. Le magicien, lors du repas, a permis d'animer et d'apporter un côté vraiment différent et également de favoriser les échanges. Je pense que toujours proposer des activités qui permettent aux personnes de sortir un peu de leur zone de confort, c'est toujours ça. Des moyens de s'exprimer d'une manière différente, que ce soit avec le théâtre où il y a une certaine participation qui est demandée par des... Alors, je ne vais pas aller sur des ateliers de théâtre, mais des mises en scène, etc. Voilà, des petites actions qu'on peut faire, des petits sketchs qu'on peut jouer, peut-être même des ateliers d'improvisation un peu tirés du théâtre. Voilà, enfin, c'est tout ce qui permet un peu de sortir de sa zone de confort tout simplement et de s'exprimer et d'aller sur des champs où on ne serait pas forcément allé autrement.
Merci Julie.
Et nous changeons de décor avec un spectacle de rue où nous allons rencontrer Pril, qui n'est pas un clown ordinaire. Il n'est pas comme les autres clowns. Il ne fait pas rire le spectateur par sa gaucherie. Il ne fait pas uniquement le pitre. Dans ce spectacle, Pril, interprété par Thomas Dardenne, incarne un prophète qui, au fil du spectacle, dévoile quelques vérités. Un mort, du sang sur les mains, des questions auxquelles les spectateurs sont invités, pour ne pas dire sommés, d'y répondre. Ce théâtre de rue, orchestré par la compagnie du Grenier au Jardin, interroge le public. Petits et grands sont alors interpellés, tantôt avec finesse, quand parfois c'est rapide, imprévu et brutal.
T'as des vieux, des jeunes, t'as des riches, des pauvres, voilà. T'en as, ils comprennent tout, et puis t'en as, bon ben voilà, c'est les chercheurs, donc voilà. Ils cherchent, ils s'accrochent, tu vois, t'as tout là-dedans, t'as des clonos, t'as des homos, t'as des bobos, t'as des prolos, des frères. Tes frères! Et c'est pour ça qu'on va pas te laisser pourrir dans la poubelle cet après-midi à Mulhouse! Parce que le public que t'as en face de toi, c'est un public de théâtre de rue, un public de théâtre de ruisseau. Mes frères, mes sœurs de Mulhouse! La Fonderie! Est-ce que nous allons laisser notre camarade spectateur ici présent pourrir dans sa poubelle funèbre cet après-midi à Mulhouse?
Oui.
Ça marche pas?
Merde, quoi?
J'ai besoin du concours des adultes. Les enfants sont cruels et égoïstes. Ça n'est pas nouveau. Mes frères adultes, mes frères de Mulhouse, c'est aux deuxième chance, c'est aux dernière chance, c'est notre dernière chance, vous trouvez. C'est fini de chercher. Est-ce qu'on va laisser notre camarade spectateur ici présent pourrir dans sa poubelle funèbre cet après-midi à Mulhouse?
Non.
Merci. Merci à toi.
Il y avait beaucoup d'enfants, donc c'était un peu compliqué au début, mais après on a... Les gens ont adhéré petit à petit, quoi. Je pense qu'au début, ils regardaient ça un peu comme un ovni, ils savaient pas trop ce qui se passait. Et je crois que j'ai eu l'impression, en tout cas de l'intérieur, qu'ils ont adhéré petit à petit à la forme, à ce qui se racontait. Et plus on avance dans le spectacle, plus les gens sont intégrés dans l'écriture, dans la dramaturgie, dans la mise en scène, plus ils sont actifs dans le récit. Et donc après, ça a suivi. Ça se passe souvent comme ça avec ce spectacle. Quand c'est dur au début, ça finit, on finit quand même par embarquer, parce que c'est l'écriture du spectacle qui veut ça.
Oui, mais quand même, il y a des choses. Comment vous faites face, par exemple, aux inattendus, aux surprises que peuvent vous réserver la rue?
C'est l'expérience de travailler dans la rue. C'est-à-dire, moi, on travaille ensemble avec Fabrice depuis 10 ans. Et on fait Fabrice, mais ça fait plus longtemps encore, ça fait 15 ans qu'il fait du théâtre de rue. Et c'est le propre de la rue, c'est-à-dire que c'est l'instant présent. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle jauge, quel genre de public on va avoir, dans quel lieu on va jouer, les conditions météorologiques, le son, la lumière, le soleil, l'ombre, la chaleur, la température. On ne sait jamais ce qui va se passer. En plus, c'est des spectacles interactifs, donc on ne sait jamais comment ça va réagir. Et il y a toujours une part de risque que les gens sentent, que nous on connaît, qu'on apprend aussi à appréhender, à maîtriser, à écrire aussi dans la mise en scène, dans la création du spectacle. Et donc on a de toute façon toujours des rebonds qui sont prévus, qu'on re-questionne aussi à chaque fois qu'on re-répète, on re-répète à chaque fois qu'on joue avec Fabrice, le metteur en scène, et on re-questionne tous ces trucs-là, mais c'est au cœur du travail, comment on s'ajuste dans l'instant présent.
Oui, justement, vous avez à côté de vous Fabrice Richer qui est dramaturge, metteur en scène. Peut-être, Fabrice, parlez-nous un peu de votre compagnie, de vos projets. Vous avez de nombreuses créations.
Alors, ça s'appelle la compagnie du Grenier au Jardin. On est basé à Limoges, dans le Limousin. Ça fait 15 ans, un peu, bientôt 16, qu'on existe. On a fait une quinzaine de créations, une création par an. On est une compagnie de théâtre de rue. Donc, il y a une dizaine de comédiens. Et on travaille... Merci, les spectateurs s'en vont. On les remercie, à bientôt. Et on travaille autour de l'univers du cirque, mais pas seulement, du théâtre aussi. On a monté des pièces de théâtre. Là, c'est du clown, mais c'est un clown un peu particulier. On fait des spectacles de cirque qui sont vraiment aussi particuliers, où on va casser les codes traditionnels du cirque. Et on va pas non plus aller dans le cirque contemporain, on fait du vrai cirque de rue. Voilà, on adresse direct avec le public sans quatrième mur.
Donc, contrairement au théâtre classique qui apposait une cloison virtuelle séparant le spectateur de la scène, le comédien de son public, le théâtre de rue, et le vôtre en l'occurrence, fait participer le spectateur. Il l'invite à entrer en interaction et parfois même à devenir acteur de la scène.
Plutôt qu'une participation, je parlerais plutôt d'une implication, d'une volonté d'impliquer les gens et de les forcer à se mettre les mains dans le cambouis aussi. Et ça, c'est inévitable pour nous, pour rejoindre l'inattendu. Il y a des inattendus, mais il y a des choses qui sont inévitables. C'est convoquer le public, raconter quelque chose, jouer dans l'espace public. Voilà, ça fait partie de notre cahier des charges. Très vite, on a senti que le spectacle vivant prenait une dimension beaucoup plus jouissive et beaucoup plus concrète à l'extérieur. Et en contact avec les gens. Et politique, évidemment. C'est évidemment politique de jouer dans la rue. La notion de gratuité, la notion de citoyenneté. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, on vient jouer pour vous ici, et en fait, on se retrouve avec des enfants du quartier qui viennent. Je trouve ça super.
Café Radio Culture, au cœur de Mulhouse, les 12, 13 et 14 juin 2019.
Et pour continuer cette émission au cœur des doctorales de la Société française des sciences de l'information et de la communication, nous avons justement rendez-vous avec l'un de ses présidents d'honneur. Il s'agit de Daniel Rechvarg, qui a pris le temps de nous conter, au cours d'un récit de vie, la manière dont lui aussi, très tôt, il a pris part à la culture et plus particulièrement au théâtre. En plus de ses recherches, on le voit ici ou là sur scène, mais aussi sur cette photo que l'on trouve sur internet, où Daniel Rechvarg est dans la baignoire de Pasteur.
Bon, j'ai fait ma thèse sur la science et le théâtre, déjà c'est ça me catégorise un petit peu, mais c'est à part de cette relation avec le théâtre que j'ai depuis tout petit, je suis d'origine étrangère, donc mes parents étaient étrangers, donc, et pour nous acculturer à la France, donc comme je suis après-guerre, il fallait surtout pas parler leur langue à la maison, donc, ils ont choisi d'envoyer ma sœur et moi tous les jeudis à l'époque. Enfin, un jeudi par mois, pardon. Tous les jeudis. Un jeudi par mois à la Comédie Française. Donc, on allait voir Racine, tout ça. Bon. Alors, on était au pigeonnier là-haut, parce que c'était un peu cher pour le budget. Enfin, ça, plus on descend, plus c'est cher les places. Donc, on était là-haut, mais ça n'a pas d'importance. Et puis, ma sœur et moi, on n'a pas eu la même relation à ça, mais moi, j'étais fasciné par les froufrous, par les robes, par les. Les jeux, tout ça, il y avait les odeurs, avait, moi, ça me faisait rêver, quoi. Et puis, bon, ça aurait pu rester là, après tout, hein, et la vie s'en est mêlée. Je raconte toute ma vie, hein, mais j'ai pas d'autre solution, parce que c'est un récit de vie, bien sûr. Et c'est ça qui m'a créé comme ça, donc j'ai construit mon premier spectacle, que je joue toujours, voilà, qui a maintenant plus de 20 ans d'âge, j'en ai fait 500 de voir le monde, qui s'appelle Le Cabaret Pasteur. Entre-temps, donc, j'ai fait des pièces qui ont été jouées à gauche, à droite, au théâtre de la Main d'Or, tout ça. Mais surtout, grâce à ce cabaret, d'abord, j'ai eu un prix de la culture scientifique. Et surtout, je me suis retrouvé dans une baignoire en 2001, quelque chose comme ça, parce que j'avais écrit le livre sur Pasteur là, du centenaire, là, découvert de Gallimard, et la directrice de la maison Pasteur à Arbois, parce qu'elle était originaire d'Arbois, donc pas loin de Dijon. Dole et Arbois, il est né à Dole, et puis ensuite il a vécu à Arbois. Elle m'a dit, Daniel, tu vas nous faire ton spectacle dans la maison de Pasteur. Oh, tu crois ? Elle me dit, oui, je fais venir une vingtaine de gens du tourisme pour lui montrer qu'on peut théâtraliser la maison de Pasteur. Et donc, on va pouvoir vendre la maison de Pasteur, la visite de la maison de Pasteur et ton cabaret Pasteur. Et donc j'ai dit, j'ai carte blanche. Donc je suis allé n'importe où, et là je suis dans la baignoire de Pasteur, puisque dans une de mes scènes, je joue la baignoire de Pasteur. Puisque il a acheté ça en 1874, et c'est la première baignoire de la ville d'Arbois. C'est une baignoire particulière avec trois robinets. Sauf que là, il y a la baignoire, juste à côté il y a les chiottes d'ailleurs, les planches en bois où il déposait sa divine comédie. Et donc je joue là un moment, plutôt que de la commenter sur scène, comme ce que je fais d'habitude, je joue dans la baignoire de Pasteur. Donc cette photo, c'est dans la baignoire de Pasteur avec mon costume, qui est celui d'un petit directeur de théâtre de l'époque, qui cherche à faire jouer sa troupe un peu partout. Voilà, vous avez l'histoire de la photo.
Nicolas Pélissier, vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Côte d'Azur, dans laquelle vous dirigez le laboratoire de recherche Cyclab Méditerranée. Nous connaissons le chercheur Nicolas Pélissier, qui s'intéresse aux médias, au journalisme et à ses différentes formes, mais nous connaissons également l'artiste, qui, à l'issue des journées de recherche et pendant les moments de convivialité, quand il trouve au fond de la salle un piano, il nous joue des morceaux somptueux. Comment vous conciliez les deux,
Donc je suis diplômé du Conservatoire National de Région de Marseille, donc à niveau professionnel. J'ai choisi la voie de la recherche académique par la suite, mais c'est effectivement ma première formation de base, et lorsque j'ai l'occasion effectivement de pratiquer, ben, j'essaye de le faire. Voilà. Là, il y a 15 jours par exemple, à Baia Mare en Roumanie, nous avons une ancienne doctorante du laboratoire qui a monté un centre d'art contemporain, qui est aujourd'hui le plus grand centre de résidence d'artistes de Roumanie, et elle nous a accueillis pour un colloque avec une équipe du laboratoire, au cours duquel effectivement... on a participé, on a joué, on a dit des textes et on a mis en musique le colloque. Voilà, et donc le public, c'était un public de professionnels de la culture, de différents pays d'Europe centrale, et ils ont apprécié effectivement qu'on puisse mélanger à la fois les performances artistiques et les interventions académiques. Et, ça leur a paru plus facile à digérer, entre guillemets, d'autant que c'était assez dense, effectivement.
Ces performances artistiques sont pensées par des chercheurs. Pensez-vous que les deux se rejoignent dans quelques points? On peut même dire que l'artiste est un chercheur.
Pas comme les autres.
Pas comme les autres.
Oui, ben, y a de forts points communs, hein, c'est clair. Maintenant, la finalité n'est pas tout à fait la même. Hein. Et les méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est tout l'enjeu du rapprochement qui est travaillé par certains de nos collègues, dont Franck Renucci et d'autres, sur le rapprochement qui est souhaité en ce moment au niveau institutionnel entre les écoles d'art qui dépendent du ministère de la Culture et les formations académiques qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas les mêmes contraintes, il n'y a pas les mêmes formats, il n'y a pas les mêmes statuts, il n'y a pas les mêmes enjeux et il n'y a pas les mêmes pratiques.
Et maintenant, si on vous demandait de réfléchir, Nicolas Pellissier, à une programmation artistique pour le prochain congrès, à quoi vous penseriez comme ça?
Alors, je ne suis pas au conseil d'administration de la SFIC, je l'ai été un certain nombre d'années, mais là je ne suis plus. Donc je ne suis pas au courant de ce qui est prévu, hein, mais pour avoir un petit peu discuté, donc il y aura de la performance, mais il y aura aussi une exploration de ce qui est fait au niveau numérique aussi, à travers effectivement bah, des pratiques aujourd'hui qui passent de plus en plus par Internet. Hein, je fais référence notamment aux travaux de Christian Gérini sur le street art sur Internet, qui sont tout à fait intéressantes là-dessus. On voit que les street artistes, qui normalement devraient travailler quand même en live sur leurs murs, de plus en plus bah, s'activent sur le web et créent sur le web, ce qui peut être paradoxal puisqu'on va de la rue au web. Hein, mais en fait, ce qui est intéressant, comme il le montre bien, c'est qu'il y a un va-et-vient entre la rue et le web. Et je pense qu'au niveau du congrès, c'est ce qu'on devrait essayer de mettre en évidence. C'est-à-dire que la création, aujourd'hui, elle se déplace, elle circule de plus en plus entre le online et le offline. Je crois qu'il faut éviter de céder au piège du tout numérique. Mais enfin, en même temps, le numérique, il est là, on ne peut pas non plus l'ignorer. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la circulation des savoirs, des pratiques, notamment des pratiques créatives entre le offline et le online. Ouais. Et si on peut arriver à rendre compte de cela dans un congrès d'Infocom, par rapport à d'autres disciplines, je crois qu'on est mieux placé pour le faire. Et ça serait, en tout cas, bien placé pour le faire. Ce serait dommage de ne pas en profiter.
Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment les doctorants se saisissent de la culture dans leurs projets de recherche. Car si l'art et la culture intègrent des événements scientifiques comme les doctorales de la SFIC, nous avons vu que ce n'est pas sans lien avec l'intérêt de certains chercheurs pour ces questions. Voici donc un autre récit, celui de Camille Royon, une autre doctorante et participante de l'événement.
Donc sur la manière dont je mobilise les arts et la culture à la recherche, c'est compliqué de répondre parce que les arts et la culture sont clairement l'objet de ma recherche puisque celle-ci porte sur l'étude des publics d'un festival de musique actuel qui s'appelle les Transmusicales de Rennes. Et comme je suis en thèse CIF, donc c'est une thèse professionnelle, je travaille au sein de ce festival en tant que chargée de ressources sur les publics et en tant que chargée d'action culturelle. Donc, dans le cadre de cette deuxième partie de poste, je mets en œuvre des pratiques autour de la musique du festival avec des publics accompagnés par des structures sociales, médicales, sociales, scolaires, à la découverte d'un univers artistique et d'une forme d'art et de culture. Et pour parler plus de recherche, celle-ci tourne autour de trois grands axes. Pour ce qui est pour les miennes, quoi. L'expérience esthétique dans l'art et la culture, la forme festival comme forme particulière de relation à l'art et à la culture, et enfin l'éducation artistique et culturelle. Donc, sans art et sans culture, pour moi, pour mon sujet, il n'y a pas de recherche. Et pour terminer, je mobilise aussi les arts et la culture. Enfin, parce que ma position de public m'a amenée à vouloir faire des recherches en sociologie et en sciences de l'infocom sur les expériences esthétiques, sur le rapport à l'art. Concernant des idées de prog pour le Festival des SIC 2020, eh ben, je pense qu'il faut continuer hein, sur l'idée de travailler avec des acteurs culturels et des publics du territoire où les SIC 2020 seront implantés, enfin où le Festival des SIC 2020 sera implanté. L'idée du festival est de créer pour moi un temps intense pour découvrir une programmation, mais aussi un lieu, une histoire, une ville. Voilà. Donc je pense que j'irai chercher des artistes et des pratiques qui clairement représentent la ville. Dans l'idéal, j'aimerais que ce ne soit pas des événements qui soient réservés aux chercheurs, mais qu'on puisse l'ouvrir, dans la mesure du possible, bien sûr. Ça m'intéresserait d'avoir les retours des artistes qui sont programmés, pour savoir quelles idées ça leur donne, enfin qu'est-ce que ça leur fait d'être programmés par quand même une instance inhabituelle qui est un acteur scientifique et des chercheurs. Voilà. Et puis, donc, je suis pas très objective, mais évidemment, je donnerai en dernière idée sur l'organisation, sur la programmation, hein, l'organisation d'un concert de musique, quelque chose qui donne envie de danser, des artistes qui invitent à la danse, un concert qui permette de changer de position que d'être toujours dans une position assise, parce que bon, on est quand même dans deux, trois jours où on est souvent assis, voilà. Et puis il y a aussi des groupes de plus en plus qui sont des fanfares de musique actuelle. Voilà, peut-être imaginer quelque chose qui dure un peu dans la soirée, dans la journée. Et à chaque fois, les artistes qui nous remettent dans la danse, en fait.
Nous sommes avec Kassen Willem, vice-président en charge des relations internationales de la SFIC et enseignant-chercheur à Mulhouse. Comment les performances artistiques arrivent-elles à s'articuler avec le programme scientifique ?
Mon ressenti est une grande satisfaction. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'étais un peu sceptique, comme beaucoup de gens. Est-ce que ça va être bien accueilli ? Est-ce que ça ne perturbe pas ? Dans les discussions de programmation, on a des réflexes habituels pour dire le programme scientifique prime. On ne peut pas dédier trop d'espace à ça. On est déjà trop nombreux pour parler. Les doctorants n'en parlent autant. La culture, c'est important, mais pas tant que ça. Voilà. Et finalement, Émilie s'est battue et on l'a soutenue quand même parce que le projet est beau et on s'est rendu compte que ces petits espaces qu'on avait malgré tout après annoncent pour le congrès, j'espère, un beaucoup plus gros volume de culture et ont tout à fait leur place parce que ce n'est pas la petite cerise sur le gâteau, le petit groupe qui joue dans un coin, un artiste par-ci par-là, c'était en lien avec ce qu'on fait et ça nous crédibilise auprès, et là pour nous c'est fondamental, même dans le quartier où est notre faculté, les gens du quartier ont participé, c'était même pas planifié mais ça s'est passé comme ça, et ça c'est phénoménal de faire ça parce que ça c'est une satisfaction qu'on peut rarement avoir. Alors, on peut avoir les pairs qui nous disent ton papier est bon, ton speech est bien, tu fais de la bonne recherche, tu es intelligent, bon, ou pas, mais avoir un retour de la cité, de la ville, de la population et les inclure par ce biais de la culture qui est universelle, ça c'est phénoménal. Et je pense que les artistes ont bien joué le jeu en programmant, en inventant des choses, en créant des choses qui ont vraiment un rapport et qui sollicitent en fait des problématiques qu'ont les gens en communication.
Nous sommes avec Jean-Claude Dominger, vice-président recherche à la SFIC.
Comment on pourrait agrémenter, augmenter peut-être l'édition, le volet culturel qui aura lieu l'année prochaine, en 2020 ?
Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes dans la communauté des enseignants-chercheurs. Il y a énormément d'artistes. Donc, un moment où ils peuvent montrer leur art au niveau du piano, de la guitare, du chant. Il y aurait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, parce qu'il y a des ressources, on connaît beaucoup de personnes avec des vrais talents.
En 2010, donc je n'étais pas encore président de la SFIC, mais j'étais directeur du labo qui accueillait le congrès de la SFIC. Et pour la soirée de gala, j'avais fait un spectacle qui s'appelait Tic et Puce. Évidemment, Tic, les tics et puces, bon, c'était marrant, la technologie, enfin marrant. Qui reparcourait des chansons qui parlent des cycles, enfin plein de choses comme ça, des vieux textes. Il y a des vieux textes qui parlent de la communication. Et on l'avait fait au palais Malatès, qui est un palais à Dijon, quoi. Et dans l'assistance, elle qui me l'a expliqué, donc Virginie Merci, la collègue qui fait ses pièces de théâtre à Avignon. Et Virginie m'a dit que quand elle nous avait vus jouer, et en l'occurrence, plutôt moi, puisque j'étais un de ses collègues finalement, elle m'a dit qu'elle avait fait du théâtre quand elle était au lycée et qu'elle s'était dit « j'ai envie d'écrire, j'ai envie de repartir au théâtre ». Donc elle a sa compagnie. Donc oui, le théâtre, parce que le théâtre, c'est un lieu de forte émotion qui peuvent nous mener n'importe où. Hein. C'est comme M. Céline à l'époque, on disait ça. Mais ça peut mener dans une interrogation et rester là. Ça peut transformer quelqu'un, parce qu'il y a une forte émotion. Après, faut la transformer en autre chose avec la critique, tout ça. Mais ça peut être, oui, le début de quelque chose. Et les spectacles, enfin, j'en connais un petit peu. Vous allez voir, il est tellement... ça peut déclencher cet effet, quoi. La magie va intéresser, bien sûr. Hein. Du close-up, tout ça, ça va intéresser. C'est pas un truc avec forte émotion. Techniquement, c'est propre, j'ai pas de souci avec ça, évidemment. Mais un des spectacles qui est présenté peut déclencher une forte émotion dont on ne sait pas où elle peut conduire un doctorant. Ou un prof, d'ailleurs, ou un maître de conf. Enfin, peu importe, un chercheur qui serait présent. Parce que le théâtre, c'est... Oui, ça travaille les émotions, mais quand on est... Après, quand on est sur scène, c'est autre chose. Moi, je suis pas très à l'aise, en fait, en conférence, mais quand je suis sur scène, je suis sur scène. Voilà.
Notre émission touche maintenant à sa fin. Nous aurons ainsi retenu plusieurs choses, mais aussi des mots qui les nomment. L'art, quand il s'invite dans notre espace d'échange, de communication, il provoque des situations, des conditions où les rencontres les plus inattendues deviennent possibles. Dans les couloirs de la fonderie, comme dans la rue, les performances artistiques nous ont transportés vers des questionnements et des problématiques que le prochain congrès de la SFIC va peu ou prou aborder. Oui, le 22e congrès de la SFIC se tiendra les 10, 11 et 12 juin 2020 à Grenoble, au sein de l'Institut de la communication et des médias de l'Université de Grenoble-Alpes. Les principales thématiques qui y seront abordées s'articulent autour de ces notions: institution, forme sociale, intelligence, circulation ou encore engagement et consommation.
Il va sans dire que le parcours d'un doctorant s'articule avec une histoire de vie, celle d'un individu qui, au gré de rencontres, de conversations et de divergences, construira son cheminement de recherche. La parole d'un artiste qui s'exprime par la voix, mais aussi par une émotion, un corps et des ambiguïtés, est toujours une découverte singulière. Tantôt étrange, tantôt réjouissante, les performances peuvent s'avérer, on l'a vu, source de réflexion et de problématiques pour les chercheurs. Ces derniers se sont prêtés au jeu, devant nos micros, qu'ils soient débutants ou confirmés, tous face à cette irruption de l'artiste dans le monde universitaire.